Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 7 juin. Avec vous, Jean-Noël Ducasse et Marianne Murat. Au cours de cette émission, le journal, les sports et un coup de projecteur sur les élections législatives en France. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et tout d'abord, les grands titres de ce mardi 7 juin. La police fédérale australienne cible à nouveau les syndicats du crime organisé de la mafia italienne qui utilise l'Australie pour blanchir des milliards de dollars par an. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a survécu à un vote de défiance, mais il est affaibli selon l'opposition. Les Nations Unies affirment que plus d'une centaine d'actes de violence sexuelle ont eu lieu en Ukraine depuis l'invasion des forces russes. La police fédérale australienne cible à nouveau les syndicats du crime organisé de la mafia italienne avec des craintes que la mafia utilise l'Australie pour blanchir des milliards de dollars par an. Le commissaire adjoint Nigel Ryan a déclaré que les renseignements suggèrent que les liens avec la mafia locale ont facilité l'importation illégale de drogue à grande échelle, restant sous le radar des autorités en menant une vie modeste dans des maisons modestes et en mélangeant leurs revenus illicites avec des activités commerciales légitimes. L'annonce de la police fédérale australienne a été motivée par de nouveaux renseignements un an après l'opération Ironside, qui a vu des centaines d'arrestations effectuées et 42 délinquants plaidant coupables ou condamnés à des peines de prison. Le commissaire adjoint Nigel Ryan déclare que la police ne peut pas se permettre d'ignorer ce problème.
Unleashing this next phase will be long and challenging, but the AFP is up to the challenge. And to be frank, we need to be. If we don't cut off the head and tail of organized crime, we face living in a very different Australia.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a survécu à un vote de défiance, obtenant suffisamment de soutien dans son parti pour rester au pouvoir malgré une rébellion qui va l'affaiblir davantage. Monsieur Johnson a obtenu le soutien de 211 des 359 députés de son parti, plus que la majorité nécessaire pour rester au pouvoir contre 148 députés qui ont voté contre lui.
Good evening. I can report as returning officer that 359 ballots were cast, no spoiled ballots, that the vote in favour of having confidence in Boris Johnson as leader was 211 votes, and the vote against was 148 votes. And therefore, I can announce that the Parliamentary Party does have confidence. Yeah.
Réagissant par la suite, Boris Johnson a donné une tournure positive à ce qu'il a décrit comme un très bon résultat.
So well, I think this is a very good result for politics and for the country.
Just in it's just
I do. Just in this sense, I think it's a convincing result, a decisive result, and what it means is that as a government we can move on and focus on the stuff that I think really matters to people. And of course I understand that what we need to do now is come together as a government, as a party, and that is exactly what we can now do. Focus on the stuff that I think the public actually want us to be talking about.
Le chef de l'opposition, Keir Starmer, a déclaré que peu importe ce qui se passe à la Chambre des communes, c'est le début de la fin du règne de Boris Johnson.
This evening, the Conservative Party had a decision to make, to show some backbone or to back Boris Johnson. The British public are fed up with a Prime Minister who promises big but never delivers, fed up with a Prime Minister who's presided over a culture of lies and law-breaking at the heart of government, fed up with a Prime Minister who is utterly unfit for the great office that he holds. Conservative MPs made their choice tonight. They have ignored the British public.
Les Nations Unies affirment que plus d'une centaine d'actes de violence sexuelle ont eu lieu en Ukraine depuis l'invasion des forces russes et ont averti que les risques de trafic humain sont, je cite, d'une évidence alarmante. Pramila Patten, représentante spéciale de l'ONU sur la violence sexuelle dans les conflits, s'est adressée au Conseil de sécurité avec Natalia Karbowska, directrice du Fonds ukrainien pour les femmes, qui a déclaré que les militants des droits humains et les forces de l'ordre estiment que des centaines de cas ont été commis par les forces russes.
From the outset of this conflict, heightened risk of trafficking in persons, including for the purpose of sexual exploitation and prostitution, have been alarmingly evident. The lack of consistent vetting of accommodation offers and transportation arrangements is a serious concern, as well as the limited capacity of protection services to address the velocity and volume of displacement. As of 3rd of June, the Human Rights Monitoring Team of the United Nations High Commissioner for Human Rights has received reports of 124 alleged acts of conflict-related sexual violence occurring against women, girls, men and boys.
Vassili Nebenzia, l'ambassadeur de Russie, nie les accusations, affirmant que les allégations étaient infondées, puis il a quitté la réunion. Des responsables du département d'État américain ont condamné les récentes attaques russes contre des infrastructures et des cibles civiles en Ukraine. Lors d'un briefing au département d'État de Washington, le porte-parole Ned Price a décrit les attaques comme insensées et un affront au peuple ukrainien.
Not only do we continue to stand with our Ukrainian partners to provide them the security assistance that they have put to extraordinary effect to defend their freedom, to defend their democracy, to defend their country, but we have also provided our Ukrainian partners with economic support, with humanitarian support.
Le président russe Vladimir Poutine a averti que ses forces frapperaient de nouvelles cibles si les États-Unis fournissaient des missiles à longue portée à l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces ukrainiennes avaient maintenu leur position au milieu de violents combats.
The Russian army is trying to deploy additional forces in the Donbass region, but it is the 103rd day and the Ukrainian Donbass stands. It stands firmly. We are doing everything for their defense in the Zaporizhia and Mykolaiv directions as well.
La première visite bilatérale du Premier ministre australien en Indonésie, où il a déclaré que l'Australie et l'Indonésie vont construire une relation économique plus étroite et à assurer la paix et la stabilité dans la région après la tentative de la Chine d'exercer une plus grande influence en Asie du Sud-Est. Anthony Albanese a annoncé un soutien au projet de technologie verte, des bourses d'études supérieures pour les étudiants indonésiens et la création d'un bureau de l'Asie du Sud-Est au sein du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce.
Indonesia is on track to be one of the world's five largest economies. Revitalizing our trade and investment relationship is a priority for my government, and it's why we plan to work with Indonesia to realize the potential of the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Our economic ministers will meet regularly, and we will continue to secure the backing of business on both sides.
Et puis le Premier ministre australien a qualifié d'acte d'agression un incident entre un avion de chasse chinois et un avion de surveillance militaire australien. Anthony Albanese a déclaré que l'avion australien observait des pratiques internationales lorsqu'il a été intercepté au-dessus de la mer de Chine méridionale. Pékin considère la mer de Chine du Sud comme son territoire. Anthony Albanese déclare qu'il n'avait pas reçu de réponse de la Chine depuis que l'Australie avait soulevé la question.
And they were strong representations, as you would expect. We've also made the public comments, so they haven't been just quiet diplomacy in this case. They've been strong because we regard the actions of China in this area as being an act of aggression and a dangerous act against an Australian. Against the Australian Air Force, which was conducting aerial surveillance in accordance with international norms and in accordance with practice that's been long observed.
La Reserve Bank devrait relever son taux directeur ce mardi 7 juin. Les économistes s'attendent à une hausse entre 0,2% à 0,4%. Le mois dernier, la RBA a augmenté le taux d'un niveau record de 0,1% à 0,35%, la première augmentation depuis 2010. Il y a des avertissements que de nouvelles hausses peuvent être attendues dans les mois à venir pour lutter contre l'inflation. L'analyste de City Index, Tony Sycamore, a déclaré que la Reserve Bank suivrait probablement l'exemple des autres banques centrales du monde.
We are an inflationary environment and we're also in an environment of aggressive central bank rate hikes. BOC, RBNZ, Federal Reserve. The RBA, I think, will probably toe the line in that respect as well.
Les syndicats de Nouvelle-Galles du Sud ont accueilli avec prudence le projet du gouvernement d'accorder aux travailleurs de santé une prime unique de 3 000 $ dans le cadre du budget de cette année, ainsi que de relever le plafond des salaires du secteur public à 3%. Le secrétaire du syndicat des services de santé, Gerard Hayes, a déclaré que le plan du gouvernement serait accueilli par les travailleurs, mais il dit qu'il reste encore beaucoup à faire pour indemniser correctement les employés du secteur de la santé.
Look, I think it's certainly a step in the right direction. Effectively, for a health worker who's a cleaner, who did receive 2 years ago $149, they'll effectively, with the $3,000 one-off payment, have a 9% increase. I think that is very good in the short term, but I think there's a longer-term game as well to be played here that will recognise real wages through work value, and that's what we'd continue to focus on going forward.
Aux États-Unis, les démocrates tentent d'élaborer une loi sur les armes à feu à la suite d'un certain nombre de fusillades très médiatisées ces dernières semaines. Le sénateur démocrate du Connecticut, Chris Murphy, a déclaré que le pays ne pouvait plus ignorer la violence avec les armes à feu.
This country can't look away from what you have to go through as kids. This country cannot look away as our schools and our neighborhoods become killing fields. We are in very real discussions right now to try to craft a bill that will make a difference. And the only way that we are going to get that across the finish line is for all of you to be persistent, for every single one of you that's here today to go home and recruit a couple more of your friends to be part of this cause.
Kin Sacha Bukavu et Lou Bumbashi, ce sont là les trois étapes du roi de la Belgique en République démocratique du Congo lors d'un voyage officiel à partir de ce mardi. Pascal Molégois, pour RFI, a interrogé les Congolais sur cette visite de 6 jours.
La présence du roi belge en RDC nous rassure. Moi, je m'attends beaucoup plus à ce qu'il y ait restitution des objets d'art que la Belgique a pris au Congo durant la période de la colonisation.
La première chose, c'est de demander pardon au peuple congolais pour les crimes que la Belgique a commis au Congo.
Pour moi, c'est un grand événement. Pourquoi ? Parce que c'est une réconciliation, premièrement, historique. Nous attendons qu'il ne vienne pas d'une façon diplomatique. Non, nous voulons qu'il dise aussi des certaines vérités au chef de l'État pour qu'on voit un peu clair, nous, peuple congolais. C'est-à-dire qu'il y a de d'emploi. Presque tout le monde est chômeur ici.
Qu'ils puissent nous présenter ses excuses par rapport à ceux qui nous ont fait subir dans les passés.
Le Congo ne peut pas être abandonné au niveau où il est arrivé. Nous avons besoin que le roi puisse porter la voix du Congo aux plus hautes instances de la terre pour que le Congo retrouve la paix. C'est vraiment ça, la réconciliation que nous pouvons bâtir avec la Belgique. C'est ce que nous attendons en tant que peuple pour la visite de cette personnalité très stratégique et très importante.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 21 degrés. Adélaïde, 15. À Melbourne, 11 degrés. Hobart, 8 degrés. Canberra, 8 également. Sydney, 17. Brisbane, 19. Cairns, 29. Darwin, 34. Et à Alice Springs, un maximal de 16 degrés. Un rappel des grands titres de ce 7 juin, la police fédérale australienne cible à nouveau les syndicats du crime organisé de la mafia italienne qui utilise l'Australie pour blanchir des milliards de dollars par an. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a survécu à un vote de défiance, mais il est affaibli selon l'opposition. Voilà, fin du journal. Merci de rester avec nous.
Journal des sports du mardi 7 juin 2022. Et on commence avec du football, une seconde déception pour les Bleus en Ligue des Nations. Tenant du titre déjà battu par le Danemark vendredi dernier, les Bleus viennent de concéder un nul face à la Croatie. Score final, un but partout. Les Français se retrouvent troisième de leur groupe. La réaction du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps.
Ouais, ça s'est arrêté, mais on avait tout fait jusqu'à leur donner l'opportunité d'égaliser. Après, la fin de match était plus en leur faveur, avec le public qui poussait. Nous, à vouloir aller chercher la victoire, on a laissé un peu plus d'espace. Donc évidemment, il y a des regrets par rapport à ce qu'on avait fait, parce qu'avant de concéder ce pénalty, on a eu deux occasions de pouvoir mettre le deuxième but et d'avoir bien maîtrisé, mais la fin était moins cohérente de tout ce qu'on a pu faire. Les 10 dernières minutes, forcément, on leur a offert trop de possibilités.
Prochain match des Bleus, ce sera vendredi prochain face à l'Autriche. L'Autriche elle-même battue par le Danemark et le Danemark donc qui prend la tête du groupe avec 5 points de plus que la France. Et en foot toujours, l'Ukraine n'ira pas au Mondial au Qatar. C'est le Pays de Galles qui s'est qualifié hier, 1-0. On ouvre maintenant une page largement consacrée à Roland-Garros. Le tournoi de tennis parisien est désormais terminé. Et chez les hommes, c'est Rafael Nadal qui soulève pour la 14e fois la Coupe des Mousquetaires. L'Espagnol s'est imposé facilement en 3-7 face au Norvégien Casper Ruud, 6-3, 6-3, 6-0. Retour sur cette victoire, Olivier Pron, Radio France Internationale.
Vainqueur du simple messieurs Roland-Garros 2022 et il obtient son 22e titre en Grand Chelem, le 14e à Roland-Garros, l'Espagnol Rafael Nadal.
C'est inimaginable, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, 14 fois que tu gagnes le tournoi. Moi, j'en parlais avec Bruguera, il l'a gagné deux fois, mais t'imagines, il faut le gagner 12 fois de plus. Pour moi, on aura vécu ça, c'est vrai que c'est irréel tout simplement.
Irréel pour Richard Gasquet, ses 14 titres de son copain Rafa à Paris, bien plus que les Borg, Kuerten et Bruguera réunis. Paul-Henri Mathieu, adversaire épique de Nadal ici en 2006, met cette série au sommet du sport mondial, carrément.
Gagner 14 fois Roland-Garros, pour moi,
c'est le plus grand exploit du sport en général. C'est quelque chose qui est complètement inconcevable, voilà, qui sort de, complètement de la normalité, même si c'est sa surface de prédilection, mais gagner ici 14 fois, c'est complètement incroyable.
Raphaël Nadal, plus qu'un fabuleux et unique palmarès, c'est un courage, une résilience, une inspiration pour Justine Hénin, 4 fois titrée à Paris.
Ça donne le vertige, et au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer, je suis admirative devant l'état d'esprit, voilà, très touchée aujourd'hui de ce qu'on a vécu, parce que je trouve que dans le monde du sport, il est une inspiration vraiment incroyable pour nos jeunes et pour chacun d'entre nous. Ouais.
Raphaël Nadal, qui a tenu à remercier le public de Roland-Garros et tous ses supporters, dans un effort de parler français qu'on ne peut qu'admirer.
Merci, merci beaucoup à tout le monde ici à Paris.
Alors à la fin du match, le suspense était à son comble, retraite ou non pour le numéro 5 mondial. On le rappelle, Raphaël Nadal souffre d'une pathologie rare et douloureuse qui touche l'os situé sur le dos du pied. Il l'a avoué en conférence de presse à l'issue de la finale, il a joué la quinzaine le pied totalement anesthésié. Nombreux sont ceux qui pensaient qu'il s'arrêterait après cette 22e victoire en Grand Chelem, mais l'Espagnol s'est voulu rassurant.
I don't know what can happen in the future, but I'm gonna keep fighting to try to keep going. So many thanks. Thank you very much, everyone. Thank you.
Rassurant, certes, mais pas longtemps, puisqu'il a tempéré ses propos quelques minutes plus tard.
It's obvious that with the circumstances that I am playing, I can't and I don't want to keep going. The mindset is very clear, no? I'm gonna keep working and to try to find a solution and an improvement for what's happening in the foot.
Face à Nadal, il y avait celui qui jouait sa première finale en Grand Chelem, Casper Ruud. Le Norvégien, alors classé numéro 8 mondial, gagne 2 places et devient numéro 6. On l'écoute.
This match will be something I will probably remember for the rest of my career. There are certain moments, I think, for everyone's career that you will remember more than others. So this one will be high up on my list, the biggest match I've ever played. And he's, like I've said many times before, a player I have watched on TV for the last 16, 17 years. So to be there myself and face him, it's a bit of a challenge as well, but a very enjoyable one. So... yeah, of course, I wish I could make the match closer and all these things, but at the end of the day, I can hopefully one day tell my grandkids that I played Rafa on Chatrier in the final, and they will probably say, wow, did you? And I will say yes. So, I mean, I'm going to probably enjoy this moment for a long time.
Autre finale de Roland-Garros du côté des femmes, et bien la numéro 1 mondiale et grande favorite, Iga Swiatek, gagne le tournoi pour la seconde fois après sa victoire expéditive contre Coco Gauff en 2-7, 6-1, 6-3, on l'écoute.
Amazing, honestly, it's so much different than after, you know, 2020 Roland Garros, because right now I feel like I'm more ready to what's coming and I feel more prepared and more, you know, solid, because it was all pretty hectic 2 years ago, and right now I'm even ready to celebrate a little bit more. I think in 2020 the main thing that I felt was confusion, because I've never really believed 100% that I can actually win a Grand Slam, and this time it was, you know, pure work and pure I don't know, just with everything that was going on, I'm also like more aware of how it is to win a Grand Slam and what it takes and how every puzzle has to, you know, come together, and basically every aspect of the game has to work. And with that awareness, I was even more happy and even more proud of myself, because in 2020 it was all, I just felt that I'm lucky, you know, and this time I felt like I really did the work.
Face à Iga Swiatek, un Coco Gauff qui n'a pas vraiment existé, déçue mais positive, en conférence de presse, on écoute l'Américaine de 18 ans.
I guess the journey to get here, I realized that the key to making the final was not something with my game or something that I need to fix. It was more with my mentality and how I enter the matches. And I think that's what I think the difference between me dreaming it and reality. I realized that yes, it's hard to get here, but also it's not like some master puzzle that you need to solve. You just kind of have to get your mind in the right place and I think over the years, watching other players get to the semis and you see that sometimes they kind of freak out, or in the final and they kind of freak out. And a lot of times I feel like they think it's something wrong with their game or something, this shot isn't working. And really it's not. I think we're all great players. And for other players in the locker room, I think everyone's a great player. And I think it's really just about how your mindset and minimizing the moment. And I think just talking with other players in the locker room, I think that it's important to minimize the moment. And I think me going in, I know I've been saying a lot, oh, it's just a tennis match, you know, it doesn't matter. And really that's what I believe. And it doesn't matter. I mean, with the emotions now, I'm feeling it a lot. But tomorrow, I'm going to wake up and be really proud of myself.
Autre défaite pour Coco Gauff en double aux côtés de Jessica Pegula, puisque ce sont les deux Françaises qui se sont imposées 2-6, 6-3, 6-2. On écoute la joie de Caroline Garcia avec Kristina Mladenovic en conférence de presse.
It was definitely a challenge to play against Coco and Jessica. And first set was really tough for us. Didn't really want to... We couldn't do what we wanted, and I think we reacted very well at the end of the changeover. And we changed our tactics and really believed in it and really went all the way for it. And the energy changed completely. The fans were really cheering for us, and I think it was a big help. And we kept our line until the end, and we just, I think, improved through the match.
Et pour terminer cette page Roland-Garros, une autre fierté française avec le succès de Gabrielle Debru au tournoi junior. Le prochain tournoi du Grand Chelem, c'est à Londres, à Wimbledon. Ça commence le 27 juin jusqu'au 10 juillet. On termine avec du cyclisme et la victoire du Français Alexis Villermoz lors de la deuxième étape du Critérium du Dauphiné. Il s'empare également du maillot jaune, c'est son premier maillot distinctif de sa carrière. On écoute.
On a eu un très bon collectif à l'avant de la course, une très bonne entente également, donc voilà, combativité, elle est vraiment à l'ensemble de l'échappée qu'à une personne. Donc voilà, j'en profite pour remercier mes compagnons d'échappée parce qu'ils méritaient autant que moi la victoire d'étape et j'ai eu cette chance, donc voilà, je sais que prochainement ce sera leur tour et je leur souhaite le meilleur. Normalement demain c'est une étape qui me convient plutôt bien, mais avec les efforts consentis aujourd'hui ça risque d'être un peu dur, mais ouais, le maillot jaune ça se défend jusqu'au bout, je vais me battre jusqu'au bout et je ferai 300% pour essayer de le conserver, même si je sais que ça va être dur, mais voilà, je vais aussi passer.
Dernière ligne droite en vue des élections législatives en France. Premier tour dans l'Hexagone et les Dom-Toms ce dimanche. Si, comme nous, vous êtes des Français de l'étranger, eh bien, vous avez déjà voté. Alors, l'une des grandes inconnues de ce scrutin, c'est la dissidence au sein des partis de gauche. Parmi les quelques 80 candidats rebelles, beaucoup se présentent dans des zones électoralement favorables à l'union de la gauche. C'est le cas, par exemple, dans la deuxième circonscription de l'Ariège. Reportage Aurélien Devernoy, Radio France Internationale.
C'est devenu en quelques semaines comme une tradition. À chaque réunion de la NUP, les représentants des partis prêtent allégeance aux candidats de l'Union. Et ce soir-là ne fait pas exception dans la salle communale de la Tour du Crieu, sauf qu'il y a un absent, le PS.
Mais là, ils ne sont pas là ce soir, mais ils seront là le 7 juin.
Le député insoumis et candidat à sa réélection, Michel Larry, va beau s'en défendre. Le Parti Socialiste Ariégeois fait de la résistance.
Le PS joue le jeu, les militants PS. Alors après, il y a quelques barons locaux qui ne sont pas contents. C'est pas grave, c'est pas ça qui fait la France, heureusement.
Mais les barons locaux, justement, rejettent l'accord d'union conclu à Paris et ont également la dent dure contre le député insoumis, Christine Tecky, présidente du conseil départemental.
Tous les dossiers que le département porte, et les filles s'y opposent. Est-ce qu'on a été aidé par les députés insoumis en Ariège ? Zéro.
Bonjour madame.
Laurent Panifous.
Une candidature dissidente a donc été présentée. C'est Laurent Panifous, maire d'un petit village, qui s'y colle. Ce jour-là, il reçoit un soutien de poids, la présidente de région, Carole Delga.
Je suis contente de l'avoir vue dans le débat parce qu'on parle d'elle.
Venue défendre l'intérêt d'un pacte politique 100% socialiste.
On a un pacte, donc avec le département, la mairie, l'aglo, et maintenant il nous faut des parlementaires aussi.
L'image de Carole Delga, un atout décisif selon Laurent Panifous.
Le fait que voilà, on soit sur cette même ligne aujourd'hui de quelque part de résistance dans une situation très troublée pour tout le monde, moi ça me renforce et ça me donne beaucoup de courage pour cette campagne. Seul ça aurait été compliqué.
Ce qui aurait bien arrangé le député sortant, Michel Larive, qui continue pourtant de tendre la main.
Les socialistes ne sont pas mes adversaires, mes deux adversaires, c'est l'extrême droite et La République En Marche.
L'insoumis n'a pas oublié qu'en 2017, c'est face à une candidate macroniste qui l'avait emporté d'un souffle 276 voix. Messieurs. De quoi laisser quelques espoirs à celui qui porte cette fois les couleurs présidentielles, Rémi Dutrénois, en visite auprès de la puissante Fédération Locale des Chasseurs.
Votre visage ne me dit pas grand-chose.
Pas facile d'exister politiquement en Ariège, mais le candidat Ensemble estime être un atout pour ce territoire souvent oublié des politiques nationales.
J'ai la légitimité de l'investiture de la majorité présidentielle, donc ça me différencie et me donne un avantage par rapport à mes concurrents. S'il veut rester dans des groupes qui n'auront pas l'audience du gouvernement, ce sont les électeurs ariégeois et l'Ariège qui en pâtira.
Côté socialiste et insoumis, on s'inquiète plutôt de la menace de l'extrême droite. Lors du second tour d'élection présidentielle, Marine Le Pen a bien failli dépasser Emmanuel Macron dans le département du jamais vu en Ariège.
De son côté, la droite se positionne sur le Pas-de-Calais, notamment face à l'assaut du Rassemblement national. Direction à la 7e circonscription du Pas-de-Calais, donc territoire de 128 000 habitants qui compte la ville de Calais face à la Manche et à l'Angleterre, un symbole de l'enjeu migratoire mais aussi des zones plus rurales. Aux législatives de 2017, la droite s'était imposée face à l'extrême droite, mais cette fois-ci, le député Les Républicains sortant traîne le boulet du score catastrophique de Valérie Pécresse à la présidentielle, alors que Marine Le Pen, elle, a battu des records dans le secteur. Lucille Jambert.
Épinards, pommes de terre, salades, Monique se tient prête dès 6h du matin.
On a tellement une petite retraite qu'on vend le surplus de son jardin.
Sur le marché d'Audruic, entre les volailles et les porte-vêtements, tout le monde évoque la même chose quand on parle des législatives.
Franchement, ouais, financièrement, c'est impossible. Le pouvoir d'achat, il s'abaisse, prix du gasoil.
Tout est cher. Et le travail, c'est pas traverser la rue et trouver un emploi. Non.
C'est sur ces difficultés sociales et sur la question migratoire, si prégnante à Calais, la ville voisine, que le candidat local du Rassemblement National capitalise.
Je suis Marc de Florian, je suis le candidat de Marine pour les élections législatives.
Cet ancien militaire assure que la circonscription est prenable à la droite.
Elle est prenable parce que les électeurs se sont massivement prononcés pour Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Et on le dit, et les électeurs l'ont bien compris, l'élection législative est le troisième tour de l'élection présidentielle. Au premier tour, Marine recueille 40% des suffrages en moyenne dans la circonscription et au second tour, elle recueille 60% des suffrages.
Mais l'extrême droite parviendra-t-elle à mobiliser ses électeurs ?
Petit poids.
Dans l'allée voisine, le député LR sortant, Pierre-Henri Dumont, ne croit pas au scénario du RN conquérant. Mais après le fiasco de la droite à la présidentielle, il joue sa survie, alors il mise tout sur son ancrage local.
Comment tu vas ? Ça va ?
Super.
Ici, Pierre-Henri, je le connais bien.
Né dans la région, ancien maire dans le coin et fils d'un couple qui fait de la politique ici depuis 40 ans.
J'ai le soutien de l'ensemble des élus locaux ici sur le territoire de Druic. On travaille tous ensemble pour améliorer la vie des gens. Voilà. Évidemment, ça fait une différence entre ceux qui sont là pour distribuer des tracts avec une photo soit de Marine Le Pen, soit d'Emmanuel Macron, soit de Jean-Luc Mélenchon. Puis ceux qui se battent, vous voyez, sans tract, où les gens les arrêtent, disent bonjour parce qu'ils le connaissent.
Celui qui, au contraire, joue la carte nationale au maximum, c'est le macroniste Henri Warozic. Il faut donner sa majorité à M. Macron, répète l'ancien proviseur de lycée et conseiller municipal.
Moi, je pense que le programme de Macron est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus crédible. Et puis, nous, on aura l'écoute, on aura la confiance du gouvernement. Par rapport à quelqu'un qui est dans l'opposition, lui, il ne sera pas écouté. Nous, on sera là pour construire avec le gouvernement et le gouvernement va nous aider.
Quant à la gauche, elle a perdu beaucoup de terrain dans cet ancien bastion socialiste et communiste. Mais l'écologiste Jean-Pierre Moussali veut y croire.
Une part de plus en plus importante de la population, soit est dans la pauvreté, soit dispose de revenus très modestes. Donc notre objectif et notre vision, c'est d'anticiper les crises plutôt que d'y répondre une fois qu'elles sont survenues. Autant pour les crises sociales que pour les crises environnementales et climatiques.
Et la nouvelle union de la gauche lui redonne de l'espoir.
Du côté de la majorité présidentielle, eh bien, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est candidat. Son point de chute, c'est la 4e circonscription du Loiret. Un pari loin d'être gagné d'avance, puisque le sortant est un député Les Républicains. Et Marine Le Pen est arrivée en tête à l'élection présidentielle. Valérie Gasse, RFI.
Du ministère de l'Éducation nationale à la salle du foyer municipal de Courtenay, il y a un monde, celui qui sépare Paris d'une circonscription en grande partie rurale, mais un peu moins de 2 heures de route. Et c'est dans un van qu'il conduit lui-même que Jean-Michel Blanquer arrive pour rencontrer une quarantaine de personnes venues l'écouter.
Merci beaucoup d'être là ce soir.
Jean-Michel Blanquer se prête au jeu de cette campagne de terrain qu'il découvre en assumant son passé de ministre.
Une élection comme celle-là, c'est l'occasion tout simplement de se parler entre citoyens. C'est absolument passionnant parce qu'on est à la fois sur les grands enjeux de notre monde et sur les problèmes de société très concrets. Pour moi, c'est le sens de la vie, alterner des niveaux d'expérience et on peut apporter beaucoup au local quand on a une expérience nationale et vice-versa.
Une vision de ce qu'il peut apporter que ne partagent pas ses adversaires. Ariel Lévy, le candidat Les Républicains, dauphin du député sortant Jean-Pierre Door, décrit Jean-Michel Blanquer comme un opportuniste.
Il a essayé les Yvelines, il a essayé Paris, il a essayé les Hauts-de-Seine, la circonscription de Pithiviers. Aujourd'hui, il est arrivé ici par défaut. Notre territoire n'a pas besoin d'un ex-ministre déchu recyclé pour chercher un titre.
La bataille de la légitimité est rude dans le Loiret. Le candidat de l'ANUP, l'Alliance des partis de gauche, le communiste Bruno Notin, accuse Jean-Michel Blanquer d'être déconnecté.
Donc il arrive comme ça, il veut donner des leçons, main dans les poches, avec sa casquette, genre je sors de l'hippodrome de Longchamp, là, tranquille, en goguette, le week-end. Bon, on va lui acheter un GPS, hein, on va lui noter les quartiers populaires, il va être obligé d'y venir.
Dans l'un de ses quartiers à Chalette-sur-Loing, Bruno Notin va à la chasse aux électeurs.
Bonjour madame. Vous avez vu qu'on vote le 12 juin ?
L'abstention, c'est aussi la hantise du candidat du Rassemblement national, Thomas Ménager. Lui, c'est dans les petits villages, en zone rurale, qu'il essaie de mobiliser les électeurs.
On va peut-être se mettre à l'entrée du marché.
À Corbeil-en-Gâtinais.
C'est clairement notre principal problème, c'est que les gens aillent voter.
Hasard ou coïncidence de la campagne, Jean-Michel Blanquer a lui aussi choisi de se rendre à Corbeil. Ce jour-là, le candidat du RN en profite et engage la conversation au milieu du marché.
On a gagné le premier round au présidentiel, donc on espère confirmer l'essai aux législatives.
C'est en effet Marine Le Pen qui a gagné dans la circonscription le 24 avril.
On a vu le bilan d'Emmanuel Macron. Il ne faut pas que les habitants oublient le bilan qu'ils ont rejeté.
On a 52% d'électeurs qui ont exprimé un vote protestataire et je veux qu'il change de vote. Je veux qu'il fasse un vote constructif.
Jean-Michel Blanquer passe son brevet électoral dans le Loiret.
Bon courage à vous, monsieur le ministre.
Et on continue l'émission avec la gastronomie à table dans la série Kitchen Conversations et se focus sur la cuisine régionale indienne avec notre collègue Audrey Bourget.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Bonjour, ici Audrey Bourget avec un nouvel épisode d'À table Kitchen Conversations. La cuisine indienne est l'une des plus variées au monde. Pourtant, on a tendance à retrouver les mêmes plats dans les restaurants indiens en Australie. Avec son restaurant Enter Via Laundry, la chef Hayley Raishura veut changer la perception qu'ont les Australiens de la cuisine indienne. La chef Hayley Raishura s'est fait connaître grâce à Enter Via Laundry, un restaurant dans sa maison de Melbourne où elle cuisinait pour des petits groupes. Le nom Enter Via Laundry, c'est parce que ceux qui venaient manger chez elle devaient passer par sa laverie pour se rendre à la salle à manger. Son but était de présenter les diverses facettes de la cuisine de l'Inde, son pays d'origine.
Indian cuisine itself is not represented to its core. The food that we get in the restaurants is more the Punjabi food and it's more the stereotypical food that's not usually eaten back home. And so I wanted to change the narrative of how Indian food was seen, how how and take it away from it being very modest, just a takeaway or a mid-tier to what it deserves to be. And there's so much technique in it. There's so much amazing produce in it. It's got such a huge history, but it's dumbed down for some reason. And that really did not sit well with me.
Depuis ses débuts en 2018, elle illustre toute la complexité de la cuisine indienne, se concentrant sur différentes régions du pays.
If we keep trying to change our own cuisine so it gets accepted or it suits other people's palate, eventually we are losing the craft and art and the essence of our cuisine. And we are obviously not going to pass it down. So eventually in a few years, it probably would be just completely something else. And it would just probably lose the authenticity of it. And so I'm very big on carrying forward the framework and the philosophy of the cuisine and preserving that. Because if we don't, then really what is left for our own cuisine? If it's all going to look like French or Italian, then what's Indian cuisine then?
Devenue trop populaire pour continuer de recevoir chez elle, Enter Via Laundry est devenu un vrai restaurant dans le quartier de Carlton North plus tôt cette année. La chef continue de se concentrer sur la cuisine régionale indienne, mais elle pousse le concept plus loin en la servant de manière traditionnelle.
I used to cook a lot of things in a degustation manner. Not everything was unauthentic and not everything was authentic. For example, there was a kingfish I used to cook with mustard sauce, and I used to serve just the kingfish by itself, but it's just always screamed to me to serve rice with it, which is how we would eat it. And I think it's just now that I think I feel brave enough that if I did things differently, that it would be accepted easier. And even now, I think some people might still not get it. Some people still might think that, oh, well, if it's a finer, luxurious kind of a feel of a cuisine, a special meal, why is it served around rice? But then that is how we eat it at home. And that's how our tradition is based on. So I'm going slowly and steadily trying to get people to understand that this is how we usually eat. And for us, that is very special. For us, it is exceptional luxury.
Pour commencer, la chef et son équipe explorent la cuisine du Bengale, qui est reconnue pour son abondance et son respect des traditions.
The cuisine has preserved a lot of its native ways and philosophies and of eating and cooking, and that isn't typical for every other region of India. For example, Goan or Punjabi cuisine or a few other cuisines have changed dramatically over ages, where there are only a few things that you could find that are extremely old or very, very native ways of cooking. While Bengali cuisine has preserved that essence of our cuisine and has also evolved into other things as well. And that's the reason why I like this particular region a lot. And the flavor profiles are so beautiful, and there's so much to still explore. Like, I've just started it and I feel like I want to change the menu every few weeks, because there are so many dishes within Bengali region to be showcased. So, and hence the bounty of it is amazing, and the history and the food philosophy is amazing for that region.
Le menu gastronomique, qui comporte 20 plats, change constamment. Vous pouvez y retrouver des plats comme un curry malai de marron.
On the menu right now, there is this beautiful marron that we cook in a malai curry sauce, which is coconut based, and it's very rich and delicious. And on top of it goes this beautifully cooked succulent marron, and it's to be eaten with rice again. And that's one of my favorite things to cook. And at the end of every shift, we are almost fighting for who's going to eat the leftover malai curry, which is amazing.
Le menu évolue également avec les saisons.
For example, we did a Murray cod with eggplants at the start of the year. Though as the eggplants are going out of the season, we are now doing that with beautiful oyster mushrooms, and then we're using things like pine mushrooms. And as we'd go into winter, we'd incorporate truffles with our luchi and damalu. And so it's always changing according to what the produce is available.
Et bien qu'Enter Via Laundry est maintenant un vrai restaurant, on s'y sent encore comme à la maison quand on visite, entre autres grâce à une grande table commune.
I always come from a belief that Indian cuisine and Indian food culture revolves around home cooking and revolves around having our best dishes, our best ceramics and cutlery are put out when we have friends over on a festive season or are celebrating a wedding or just having people over, and is not centered around a restaurant culture as such. And so to stay true to that and to that expression and that and feeling, we wanted to carry forward that and continue that here where we are inviting someone at home. And that's how I started originally as well. So, and that's the reason why we wanted it to be a homely feel, a casual feel. Obviously, food's taken very seriously, but we didn't want our guests to feel as if they cannot have a free conversation or have a laugh or come and have a chat with us. And usually, every table, every shared table that sits together, when they're leaving, it ends with hugs and or after dinner drinks or exchange of phone numbers, and a very beautiful communal friendly feeling on that table, which has always been center of Enter Via Laundry.
Vous devez absolument réserver pour manger chez Enter Via Laundry puisque l'adresse du restaurant vous sera seulement donnée après réservation. Vous pouvez goûter au menu bengalais jusqu'en août. Raishura passera à une autre cuisine régionale ensuite. Elle pense peut-être à celle du Cachemire, mais ça reste à suivre.
Et en fin d'émission, un rappel des grands titres de ce mardi 7 juin. La police fédérale australienne cible à nouveau les syndicats du crime organisé de la mafia italienne qui utilisent l'Australie pour blanchir des milliards de dollars par an. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a survécu à un vote de défiance, mais il est affaibli selon l'opposition. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Entre-temps, n'oubliez pas de télécharger nos podcasts sur sbs.com.au/French. Et je vous laisse avec Elodie Sablier qui nous interprète nos siennes. Belle journée, à bientôt.
Partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.